BFM, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, heure de Kinshasa, avec Nicole Ngaka et J.R. Lungemou.
J'ai perdu ma femme, j'ai perdu tous les biens, nous sommes tous dehors.
Ils sont à la belle étoile, il n'y a pas de, il n'y a pas de logement.
Il doit indemniser ma femme. Ça, c'est clair. Ce que j'attends.
C'est ce que j'attends du gouvernement.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué près de 200 000 dollars américains afin de venir en aide aux sinistrés du crash de Kinshasa survenu le 4 octobre dernier. Dans le programme d'assistance, le gouvernement prévoit de reloger les sinistrés qui ont presque tout perdu et dont certains dorment encore à la belle étoile. Bon nombre de sinistrés ne sont pas du tout satisfaits de l'aide qui leur est apportée. Pour eux, l'assistance du gouvernement n'est pas à la mesure du drame qui leur est survenu. Nous en parlons aujourd'hui, vous pouvez réagir au 081 070 2050. Vous pouvez aussi témoigner si vous nous suivez en ce moment. Vous pouvez nous appeler et écrire action@radiocapi.net.
Dossier à la justice, soit à partir du juste nettoyer Bassibo, Madame Olegane, la pointe à propriétaire, il y a le pango, Banosa Tumbong, c'est extrêmement. Donc, c'est un mot à dire que c'est un mot à moi, à la famille Bolivienne.
En République démocratique du Congo, il n'est pas toujours facile aux enfants orphelins de jouir de la succession des biens de leur défunt père lorsque celui-ci n'a pas laissé de testament. Selon la loi congolaise, il leur faut d'abord prouver leur filiation, une procédure qui, dans bien des cas, n'aboutit pas sans difficulté. Nous en parlons aujourd'hui parce que bon nombre se posent des questions. Quelle est alors la procédure de transfert et de la mutation des biens de succession? Nous en parlons avec un membre de l'ONG Avocats sans frontières. Il s'agit de Maître Dominique Kamwando, qui est déjà avec nous dans ce studio. Vous pouvez réagir au 081 070 2050 si vous souhaitez poser des questions et écrire également à action@radiocapi.net. Bonjour et bon début de semaine dans Capi Action. Alors, quels sont les autres sujets qu'on va développer ensemble?
Oui, bonjour Nicole. Nous serons à Matadi autour des 11h et 11h30 heure de Kinshasa avec Dani Kinda Ndita. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, le sida progresse de plus en plus dans les milieux ruraux. C'est le cas du Bas-Congo, notamment au centre de Luangu, Lubungu, à environ 12 km sur l'axe routier Boma-Tchela. Nous en saurons un peu plus avec notre invité, Dr Roger Lukelo Menga, médecin directeur du centre de santé. Et puis nous serons à Boutembo avec Étienne Moïndo pour parler de l'augmentation des cas de maladies mentales. À Boutembo, le nombre de malades mentaux ne cesse d'augmenter, constaté par l'ONGD CEPIMA. Étienne Moïndo nous en fera le point. Remise du matériel de dépistage de l'anémie SS à l'hôpital Saint-Joseph, nous allons aborder cette question avec notre invité, Dr Kiko Marie-José, médecin directeur du programme national de lutte contre la drépanocytose. Mais ce qu'il faut retenir, à Kinshasa, de nombreux enfants souffrent de la drépanocytose ou anémie SS. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, l'hôpital Saint-Joseph de Limété vient de bénéficier d'un lot de matériel de dépistage. On en saura un peu plus donc tout à l'heure autour des 10h30. Et puis, Kindou, nous allons aborder la question sur le conflit Sakima-Sominko. Le patrimoine de l'ancienne société minière de Kivu-Sominki oppose la société orifère du Kivu-Maniema-Sakima et la société minière du Congo-Sominko. Les bâtiments de l'ancienne Sominki à Kinshasa sont occupés par la Sominko, tandis que le siège social Kalima est occupé par Sakima. Un flou permanent autour de cette affaire, nous en saurons un peu plus avec Gabriel Ouamenia. 081 070 2050, c'est pour les réactions.
Voilà, et pour tous ceux qui nous suivent sur www.radiocapi.net, vous pouvez nous écrire à action@radiocapi.net. À la mise en ligne, Lady Merkis, à la réalisation jeudi Kachama, cette émission est coordonnée par Marcel Ngombo.
Thank you. Okapi. Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle, avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français. Okapi.
Bon début de semaine à tous ceux-là qui nous suivent à travers Radio Capi. Vous savez que tous les lundis, nous abordons avec vous un sujet en rapport avec le droit. Aujourd'hui, nous parlons de transfert et de la mutation des biens, de la succession. Vous savez que tous les lundis, nous recevons Maître Dominique Camoindo pour justement décortiquer le sujet avec nous. Il n'est pas toujours facile hein, aux enfants orphelins de jouir de la succession des biens de leur défunt père lorsque celui-ci n'a pas laissé de testament. Et selon la loi congolaise, il leur faut d'abord prouver leur filiation. C'est là justement qu'il se pose certains problèmes, parce qu'une question se pose, quelle est la procédure du transfert, de la mutation des biens de succession. Nous faisons le point avec vous, Julie Laure, bonjour.
Bonjour Nicole.
Alors pour commencer, je crois qu'il est bon que vous puissiez définir à nos auditeurs ce qu'on entend par transfert ou mutation d'un bien.
Oui, selon le code civil, lorsqu'on donne la propriété d'un bien à quelqu'un d'autre, ou bien lorsqu'on transfère son bien à quelqu'un d'autre, et pour que ce transfert ait lieu, il faut suivre une procédure, et cette procédure-là s'appelle la mutation ou le transfert de bien.
Oui, mais comment expliquer qu'un bien peut quitter une personne pour une autre personne?
Oui, Nicole, ce que nous devons savoir, c'est que la mutation ou le transfert d'un bien ne se fait pas seulement en cas de succession, parce que selon Mme Mujingai, qui est présidente au tribunal de grande instance de Makété, un bien peut quitter une personne à une autre de plusieurs manières, et cela peut se faire soit par la vente de biens, soit par la donation d'un bien à une autre personne, ou encore par succession. Mme Mujingai explique.
Soit la personne est vivante, il vend son bien à quelqu'un d'autre. Quand il vend cet immeuble sur le certificat d'enregistrement ou le titre parcellaire, le nom qui figure, c'est le nom du vendeur. L'acheteur qui achète ne doit pas continuer à jouir de cet immeuble sous le nom du vendeur. Il doit obtenir des titres en son nom. Et pour cela, il faut qu'il se présente devant l'autorité compétente pour obtenir le transfert. Un bien peut quitter une personne en cas de donation entre vifs. C'est-à-dire, une personne, son vivant, fait un don à une autre. La personne qui reçoit le don ne doit pas continuer à garder le document titre de qui consacre la propriété de ce bien au nom de celui qui lui a donné. Il faut qu'il aille changer le nom de celui qui l'a donné et mettre son nom à la place. Donc, changer le titre pour qu'on lui fasse un autre titre en son nom. Il y a aussi une mutation à la suite de la mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort, il faudra que l'héritier à qui il a cédé le soit par voie de testament, soit d'une manière légale, puisse obtenir aussi un titre en son nom. À ce moment-là, il devra s'adresser à l'autorité compétente et l'autorité compétente va annuler le titre pour lui donner un autre titre à son nom. C'est ce qu'on appelle la mutation.
Voilà, donc là, c'était les explications données par Mme Mujinga, qui est présidente du tribunal de grande instance de Makété. Hein. Alors, on va évoluer sur la question, parce que bon, est-ce que les gens respectent toujours ce transfert à chaque fois qu'un bien change de propriétaire? À supposer, je peux donner des exemples, qu'on a une maison.
Oui, dans la vie quotidienne, nous pouvons dire que cette procédure se respecte de temps en temps. Nous l'observons souvent dans la vente des voitures, d'occasion, par exemple, quand vous achetez une voiture, souvent la mutation de nom se fait au niveau de l'hôtel de vie pour le changement de nom et d'adresse entre l'ancien propriétaire et le nouveau.
Mais pas toujours. Hein.
Pas toujours, mais on exige souvent ça. Mmh. Bon, là, on sait que les gens respectent. Et le transfert de biens se fait également dans la vente des immeubles, quand vous achetez une maison, une parcelle, on sait que beaucoup changent aussi de nom, passent par le transfert
automatique.
Mmh. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi, mais cependant, on peut dire que cette procédure-là, beaucoup de gens ne le suivent aussi pas. Ici, je vous donne juste le cas d'un monsieur, il est locataire à Binza, ici à Kinshasa. Son bailleur meurt, le fils du dernier. n'ont jamais fait le transfert de documents pour changer le nom de leur deuxième père et le monsieur, le locataire, il a été victime d'un désordre familial ou d'un conflit.
Il devait mettre son nom après la mort de son père.
Il devait passer par cette procédure-là jusqu'à arriver à la mutation du transfert de nom. Et le monsieur nous explique comment il a subi cette histoire.
Bon, là, il y a un pompage, bon, on a un locataire. Là, on foutait là. Papa, on a encore le pango, il y a un coup. Donc, on a un coup. Finalement, il y a un sable, 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 il y a un sable. Mais finalement, je comprends que je suis un peu plus de temps. Donc, c'est ça, moi, à c'est moi, il y a moi, là, au bien, famille, ou rien.
Voilà, donc là, c'est le témoignage d'un monsieur, il est locataire, et lui, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation un peu difficile, parce que, bon, après la mort du bailleur, il ne sait pas à qui remettre l'argent du loyer. Ah, donc le loyer, en fait, il ne sait pas à qui le remettre.
Là, c'est un conflit de succession entre les enfants.
Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs enfants qui viennent réclamer ce loyer. Donc, il nous a expliqué que maintenant, le dossier se trouve entre les mains de la justice, on va désigner certainement quelqu'un qui va s'occuper de cela, puisque jamais son bailleur n'a laissé de testament. Vous pouvez, vous aussi, témoigner, hein, parce que bon, c'est toujours bien d'avoir plusieurs témoignages afin de mieux comprendre le sujet. Alors, normalement, comment doit se faire cette procédure de transfert, Jolie-Laure?
Oui, cette question, nous l'avons aussi posée à Mme Mougina. Elle nous explique ici comment se fait la mutation entre vifs ou encore entre personnes vivantes et la mutation en ce qui concerne les morts, Mme Mougina.
Quand les personnes sont vivantes, quand il y a donation ou quand il y a vente, la personne devra maintenant faire authentifier l'acte de donation ou l'acte de vente, soit devant le père, soit devant le conservateur des titres immobiliers. C'est le conservateur des titres immobiliers qui va recevoir l'acte de vente ou bien la cession faite par une personne vivante à une autre. Il va maintenant, à ce moment-là, établir, moyennant paiement de certains droits dus à l'État, au trésor public, un nouveau titre au nom du nouveau bénéficiaire en annulant l'ancien. Ce que nous appelons la mutation. Mais pour ce qui concerne le cas de mort, la situation est différente. Étant donné que la personne est décédée, la personne elle-même, quand bien même la personne, avant de mourir, a eu à faire un testament, cet héritier ne peut pas aller directement auprès du conservateur des titres immobiliers pour faire la mutation, obtenir un certificat d'enregistrement. Il doit d'abord passer au niveau du tribunal de grande instance pour obtenir ce que nous appelons l'ordonnance d'investiture. Alors l'ordonnance d'investiture, c'est le président du tribunal de grande instance qui établit cette ordonnance d'investiture en se basant sur des éléments que l'héritier va lui présenter. Par exemple, un testament, par exemple, un acte qui désigne la personne comme étant un héritier. À ce moment-là, le président du tribunal va ordonner au conservateur des titres immobiliers d'établir un titre de propriété en son nom.
Voilà, donc il y a plusieurs finalement procédures à suivre. Hein. On va revenir sur toutes ces explications avec notre invité principal pour cette chronique consacrée à l'ONG Avocats sans frontières. Maître Dominique est bien placé pour nous donner d'autres détails. Hein. Alors on comprend que ce sont des problèmes qui arrivent de plus en plus dans la ville de Kinshasa, mais également ailleurs au Congo certainement. Mais il y a aussi des cas où le père peut mourir et ne laisse aucun testament. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, toujours selon Mme Mougina, quand la personne décède de son laissé de testament, c'est la succession légale qui s'applique. Cette succession est différente de la succession testamentaire. Et par là, nous voulons dire que la procédure est différente de ce que nous avons suivi tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a dans cette situation, il y a un liquidateur qui doit recenser tous les biens laissés par le défunt, les gérer et aussi chercher à savoir si les héritiers veulent les vendre ou pas. Mais il faut dire que deux fois aussi, quand il n'y a pas de testament ou un acte attestant la filiation, cette procédure devient aussi compliquée, comme vous l'avez dit au début de cette émission. Et le témoignage que nous allons vous proposer tout à l'heure, c'est une femme dont le mari est mort. Et ce dernier a laissé une maison à Massy et c'est comme ça. Le hic, c'est que le locataire refuse de reconnaître la femme comme étant héritière. On l'écoute.
Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai perdu ma maison et mon mari. Mon mari n'a pas signé un cas par papier, la locataire n'a pas ébatté. Alors après son décès, le locataire a fallu pratiquement, disons, 5 mois à foutre un bon côté. Alors bien là, il y a un droit à il a déclaré que pour soigner, a signé un cas par papier, la mobile n'a rien. La méga, quand il y a un dossier, on a la justice. On va tenir à ce qui est réellement, on a pas la cas civilement, hein, la mobile, on a. Alors comme ça là, que voilà, juste au cas là, coutumièrement, on a l'état, on a dit que n'a pas un droit à correctement en côté. Mais jusque là, de ces cas là, la justice, ça va être la banque, on va faire ma cambo. J'ai perdu ma maison. Là, je me retrouvé dans la zone de mes parents. Je continue à avoir un dossier en gauche. Peut-être que je vais reconnaître un dossier pour récupérer un dossier. Le locataire m'a fait comprendre, mais en primaire, il peut amener à faire la justice à la suite à papier. Comme là, j'ai un papier qui est jusque-là, toujours là, peut-être que je vais m'abandonner.
Voilà, donc c'est un témoignage, hein, encore une fois, d'un cas réel dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez aussi témoigner. On va juste résumer pour ceux-là qui ne comprennent pas le lingala. Je dis là, ici, c'est une dame qui avait perdu son mari. Et il s'est fait que 5 mois après le décès de son mari, le locataire n'a pas payé. Pourquoi ? Il estimait que la dame n'avait aucun droit sur ce loyer, du fait que lui, il avait signé des documents avec son défunt mari. Alors aujourd'hui, l'affaire se trouve entre les mains de la justice. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le locataire connaît ses droits. La dame, ne connaissant pas ses droits, bon, elle s'est retrouvée d'une certaine manière victime.
Et il faut dire aussi que la situation se complique parce que la femme n'est pas reconnue devant la loi, devant la justice, comme étant épouse du défunt.
Parce qu'elle s'est mariée coutumièrement, ou pas civilement avec le monsieur. Donc on va certainement faire le sujet avec Maître Dominique Camoineau pour voir comment ces choses, l'affaire va évoluer. Vous nous avez suivi, vous souhaitez témoigner, pourquoi ne pas nous en parler, on nous envoie un SMS au 081 070 2050. Voilà, réoccupez vous raison pour laquelle nous souhaitons avoir dans ce studio vos témoignages. C'est toujours bien de témoigner afin que nous puissions trouver des solutions ensemble avec nos invités. Pour cette question concernant le transfert et la mutation des biens de la succession, nous avons justement un spécialiste qui est bien placé, Maître Dominique Camoineau de l'ONG Avocats sans frontières. Maître, on est là avec vous afin que vous puissiez nous éclairer davantage sur cette question. Pour commencer, on parle de transfert, de mutation de biens de la succession. Il s'agit de quoi exactement ?
Merci beaucoup, Nicole. Quand on parle du transfert ou de la mutation, il s'agit en fait du fait de transférer, c'est-à-dire de la transmission de la propriété ou des droits et obligations sur une chose d'une personne à une autre. C'est-à-dire que vos droits sur une maison, sur un véhicule ou sur un bien meuble sont transmis à une autre personne. C'est ça qu'on appelle le transfert ou la mutation.
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, transfert et mutation ?
En fait, il n'y a pas vraiment de différence. On parle plus des mutations lorsque on procède au changement des titres ou des noms sur les documents qui consacrent la propriété. C'est-à-dire, quand on parle de la mutation en matière immobilière, il s'agit du changement de nom sur les certificats d'enregistrement d'une personne à une autre. Les transferts se font de manière abstraite, automatique, dès qu'il y a l'accord entre deux personnes, c'est-à-dire les droits se transfèrent automatiquement. Et la mutation se concrétise par l'établissement des documents.
Vous avez suivi quelques témoignages dans le point que nous venons de faire avec Julie Laure. Il y a eu quelques personnes ne sachant pas qu'ils devaient faire le transfert, ne sachant pas qu'ils devaient faire un testament. Bon, il s'est posé quelques petits problèmes. Hein. Comment faire aujourd'hui pour résoudre tous ces problèmes ?
En principe, qu'il y ait un testament ou pas, lorsque une personne arrive à décéder, on doit ouvrir sa succession, c'est-à-dire on doit désigner un liquidateur qui doit procéder à l'inventaire de l'ensemble des biens et aussi qui doit procéder à la détermination de la liste de tous les ayants droit, c'est-à-dire il établit une liste de tous les héritiers. Sûrement que cela doit se prouver pour ce qui est des enfants, il faut que la filiation soit établie et pour les enfants nés dans le mariage, la filiation s'établit par l'acte de naissance Et pour les enfants nés hors mariage, il faut que ces enfants soient affiliés du vivant du défunt. Il faut qu'il y ait la procédure d'affiliation devant l'officier de la commune, donc l'officier de l'état civil qui établit l'acte d'affiliation, c'est-à-dire l'acte de la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, le liquidateur détermine la liste de tous les héritiers. Et s'il y a partage des biens à faire, il va procéder au partage des biens entre les différents héritiers. Mmh. Et sur base de ces différents documents, le liquidateur peut introduire au tribunal de grande instance une requête en investiture, c'est-à-dire il demande au président du tribunal de grande instance de prendre une ordonnance d'investiture reconnaissant ces personnes comme étant des héritiers et comme des personnes qui doivent succéder aux droits du défunt.
Maître Dominique, il faut être réaliste, au Congo, dans la plupart des cas, les gens ne font pas de testament. Vous savez que, bon, c'est un peu comme qui dirait un sujet tabou, on se dit qu'on fait un testament, et ben,
On précipite sa mort.
Mais bon, alors que faire dans ces conditions-là? Que personne ne fait recours au testament et par après, il y a des problèmes. Vous avez suivi l'exemple d'un locataire, après la mort de son bailleur, il ne savait pas à qui remettre le loyer, puisqu'il y a eu une succession d'enfants qui sont venus réclamer le loyer. Alors finalement, l'affaire se trouve entre les mains de la justice. Vous avez suivi également le témoignage d'une dame après la mort de son mari. Bon, celui-ci avait signé, semblerait-il, un contrat de partenariat avec son locataire. Alors bon, maintenant, la dame n'est pas reconnue comme étant le nouveau bailleur. Et là, elle n'a plus droit au loyer. Et elle ne sait que faire. Comment faire, Maître Dominique, dans ces conditions-là?
En principe, lorsqu'il n'y a pas de testament, la loi règle déjà ce problème. C'est ce qu'on appelle, de manière technique, la succession ad intestat, c'est-à-dire succession sans testament. Comment cela se fait? La loi déjà détermine dans ce cas-là qui doit hériter. La loi détermine trois catégories d'héritiers.
Prenons le premier exemple, avec le monsieur qui a laissé ses enfants sans pour autant laisser le testament, donc on ne sait pas qui va gérer les affaires du défunt père. Comment on va faire maintenant?
Effectivement, dans ce cas-là, la loi dit que le plus âgé des héritiers est automatiquement liquidateur de la succession, sauf s'il y a contestation, là, ils peuvent recourir au tribunal pour la désignation d'un liquidateur.
Contestation des autres membres de la famille.
Oui, s'il y a contestation par les autres héritiers qui contestent les liquidateurs des droits ou les liquidateurs légaux, en principe, c'est les plus âgés des héritiers qui doivent gérer la succession.
C'est pas le grand frère du défunt père qui va devenir héritier par hasard?
La loi ne précise pas, mais le plus souvent dans la pratique, on se limite aux héritiers de la première catégorie, s'il y a déjà un enfant majeur responsable, et si les autres héritiers ne les contestent pas. Mais la loi dit les plus âgés des héritiers. Or, la loi précise trois catégories d'héritiers.
Okay.
Mais il y a la première catégorie qui est constituée des enfants du défunt, nés dans le mariage, nés hors mariage, reconnus du vivant du défunt, et les enfants adoptés. Ça, c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, nous avons le conjoint survivant, les pères et mères du défunt, et les frères et sœurs du défunt. Et dans la troisième catégorie, nous avons les oncles et les tantes. Mais la loi précise que les héritiers de la troisième catégorie n'ont droit à la succession que lorsqu'il n'y a pas d'héritier de la première et de la deuxième catégorie. Mais lorsqu'il y a d'héritier de la première et de la deuxième catégorie, les héritiers de la troisième catégorie n'ont pas droit.
Il y a souvent confusion quand le liquidateur de droit est héritier du premier degré, comme vous l'appelez, première catégorie, tandis que les contestateurs se retrouvent être des cousins ou des cousines. Et parfois, ça peut être en confusion.
Mais les cousins et les cousines ne peuvent pas contester parce qu'ils ne sont pas ayant cousins, ne sont pas ayant droit. La loi ne parle pas des cousins et des cousines. Ceux qui ne se retrouvent pas dans ce cercle d'héritiers définis par la loi, non, par la loi, ne peuvent pas contester. Et parce que s'ils vont en justice, on va leur opposer la qualité, ils n'ont pas la qualité.
Je donne un exemple pour éclairer un peu la lanterne des auditeurs. Une famille où, disons, le propriétaire vient de décéder, il laisse, disons, ses frères et ses sœurs n'existent plus. Hein, avec qui vivent ensemble, n'existent plus. Mais ses frères et ses sœurs ont des enfants.
Effectivement.
Entre-temps, dans la filiation, il y a un enfant qui est resté de premier degré. Et les autres sœurs ont leurs enfants, mais ils n'existent plus, ils sont déjà passés. Alors comment les choses vont se passer?
En principe, dans ces cas-là, si les autres ont droit à la succession, ils seront représentés par leurs descendants. Comment ça va se faire? ça va faire qu'au niveau du partage, le liquidateur qui est l'héritier est là, il va gérer la succession. Au moment du partage, la part qui doit revenir ou qui devait revenir à ceux qui sont décédés sera remise à leurs enfants. C'est ça qu'on appelle la représentation.
Mm-hmm. Alors, on avait donné deux exemples. Le deuxième, vous l'avez suivi, la dame qui se dit aujourd'hui victime, parce que bon, son mari a semblerait-il signé un document avec son locataire. Alors aujourd'hui, elle, du fait qu'elle ne s'était pas mariée civilement avec ce monsieur, c'est-à-dire devant la maison communale, bon, ça pose problème. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Est-ce qu'elle aura finalement gain de cause, cette dame-là?
En principe, on doit d'abord savoir quels sont les termes du contrat signé entre le défunt et les locataires, quelles sont les clauses de ce contrat, qu'est-ce que ça veut dire précisément, quels sont les droits du locataire, les devoirs et tout ça. Et à ce moment-là, on peut donner une lumière, mais comme on ne connaît pas encore les clauses du contrat, si ce n'est qu'un contrat de bail en bonne et due forme qui n'a pas d'autres clauses particulières, c'est que la dame devrait faire. Bon, et puis on doit dire aussi que la loi protège le mariage légal et reconnu par la loi. Et dans le cas d'espèce, la femme peut être considérée par la loi ou selon la loi comme vivant en union libre parce que son mariage n'est pas officiellement reconnu, n'est pas enregistré. Mais si elle a des enfants, ce qu'il faut faire, c'est de désigner, qu'on désigne parmi les enfants, s'ils sont majeurs ou parmi les autres membres de la famille, un liquidateur. Et que les liquidateurs saisissent les locataires en tant que liquidateurs. Parce que dans le cas d'espèce, quand une personne est décédée, dès lors que le partage des biens de la succession n'est pas encore fait, seul le liquidateur a le droit d'agir au nom de la succession. Si la personne va comme ça en justice individuellement, on risque de lui opposer les défauts de qualité et de ne même pas examiner le fond de l'affaire. Le liquidateur peut être désigné en famille par l'ensemble des héritiers lorsqu'il n'y a pas de problème.
Donc, elle devrait faire recours à la famille.
Effectivement, le conseil de famille peut se réunir et désigner un liquidateur. Lorsqu'il y a des contestations, à ce moment-là, on saisit les tribunaux. Les tribunaux peuvent désigner un liquidateur dans la famille ou en dehors de la famille.
Bon, on insiste plus sur la succession, hein, parce que bon, c'est là où il y a souvent des problèmes lors de la mutation des biens. Ou encore lors de du transfert des biens. Il faut dire que cela se fait également lors de la vente ou encore de la donation, la mutation.
Effectivement, la mutation s'est fait aussi en cas de vente ou en cas de donation.
Et là, le problème ne se pose pas tellement. Hein.
Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes, sauf si vous tombez entre les mains d'un escroc qui a signé un acte de vente pour un même bien avec deux ou trois ou plusieurs personnes.
Dans ce cas-là,
ça arrive souvent, surtout dans des cas de conflits fonciers et tout ça. Mais ce qu'il faut faire, il faut d'abord vérifier avant d'acheter auprès du conservateur des titres immobiliers pour savoir qui est... Non, ça peut se vérifier pratiquement pour savoir qui est réellement propriétaire. Et si vous achetez auprès du propriétaire qui a ses droits, vous faites authentifier votre acte devant le notaire et vous allez chez le conservateur des titres immobiliers pour obtenir la mutation.
Ça demande beaucoup de moyens, hein, il paraît. Hein.
Oui, je ne sais pas combien ça coûte précisément, mais c'est mieux parce que les formalités sont prévues pour protéger le contenu qui est le droit.
Alors, une question de curiosité, Maître Dominique, parce que j'entends souvent, quand il s'agit des transferts et mutations des biens de la succession, on entend souvent parler des dispositions présumées. C'est quoi au juste?
Dispositions
présumées.
Non, généralement, dans les contrats ou dans les actes, on dit que toutes les clauses qui ne figurent pas dans le contrat sont présumées être réglées conformément à la loi. C'est-à-dire que pour les dispositions ou les situations non prévues par les contrats, la loi s'impose automatiquement. Dans ces cas-là, on applique les dispositions légales.
Oui, vous avez parlé tantôt de cas de transfert. Donc, dans les cas de transfert de droits, dans les cas de transfert, les droits sont transmis automatiquement d'une personne à une autre. Ben alors, si on doit tenir compte de cela, quand une personne, disons tous, sont des troisième degré ou des troisième catégorie, est-ce qu'il ne se posera pas de problème?
Au niveau des héritiers.
Des héritiers.
Non, mais au niveau des héritiers, lorsque on procède au partage, on détermine la part de chaque héritier. À ce moment-là, il ne se pose pas de problème. Et après investiture, chaque héritier peut obtenir la mutation pour la part qui lui est léguée.
Bah, à quel niveau on peut prouver la filiation ?
La filiation se prouve en principe par un acte de l'officier de l'état civil. C'est particulièrement...
L'hôtel de ville ?
Non, la filiation est obtenue par l'acte de naissance qui est délivré par l'officier de l'état civil. C'est le bourgmestre au niveau de la commune. Mmh. On peut le prouver au niveau de l'hôtel de ville. Quand on va chez les curateurs des successions, on le présente pour prouver qu'on est héritier. On peut le prouver devant les tribunaux. On peut annexer cet acte à la demande, à la requête en demande d'investiture pour prouver sa qualité.
Et ça prend combien de temps on demande la demande en investiture? Combien de temps, disons, un concerné peut attendre pour avoir une réponse?
En principe, ça ne prend pas beaucoup de jours. Si le dossier est clair, que les éléments sont là, et si le président du tribunal est dirigeant, il n'est pas pris à son mal à part beaucoup d'autres dossiers, ça peut se faire en trois jours.
Il y a un intervenant qui nous a dit que le dossier s'ouvre entre les mains de procureur et ça traîne.
Non, mais ce n'est pas une matière qui relève du parquet pour que les dossiers aillent chez le procureur. La requête en investiture, c'est fait au tribunal de grande instance, ce n'est pas au parquet. Si les dossiers se trouvent chez le procureur, c'est qu'il y a eu peut-être des faits infractionnels qui doivent être examinés par le parquet.
Avant qu'on se sépare, on va donner la parole à nos auditeurs pour deux minutes. Il y a une dame, en fait, il y a un monsieur, John Kayembe, Kalala, depuis Kananga, qui intervient. Il vous pose une question, il dit « La femme survivante, immédiatement après la mort de son mari, se remarie, donc l'épouse hein, légitime se remarie, et abandonne les enfants. Est-ce qu'elle aura droit à la succession immédiatement après la mort de son mari ?
En principe, le droit à la succession naît dès la mort du conjoint. Effectivement, cette dame qui s'est remariée en tant que conjoint survivant perd dès son mariage les droits d'usufruit, c'est-à-dire elle ne peut pas continuer à jouir et à vivre dans la maison conjugale, parce qu'après le décès d'un conjoint, le conjoint survivant a les droits
a le droit
d'usufruit. Mais pour ce qui est de ses droits à la succession en tant qu'héritier de la deuxième catégorie, elle a ses droits à la succession, même si elle s'est remariée.
Voilà.
C'est le droit d'usufruit qui prend fin dès le remariage.
Alors, il y a une autre personne qui intervient, qui dit « Un autre exemple frappant est celui d'un fidèle qui fait offrande d'une maison à son pasteur sans procéder par la mutation auprès des services compétents. » Ça arrive hein, souvent qu'il y ait des fidèles qui donnent des biens comme ça à leur pasteur.
Effectivement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, ça explique bien ce qu'on a dit, les transferts et la mutation. Dès que la personne a fait un don, le transfert est déjà opéré. Et c'est au moment des changements de titre qu'on fait la mutation. Mmh. Dans ce cas, lorsque la personne arrive à décéder, il faut que l'autre prouve qu'il y ait un acte de donation notarié pour que les pasteurs puissent obtenir la mutation en son nom.
Oui.
Mais au cas contraire, c'est compliqué.
Mais si le pasteur avait déjà joui du bien après le décès de la personne en question, est-ce que la famille a encore un regard sur ce bien-là, même s'il n'y a pas eu de mutation?
Ça dépend. Si par exemple c'est l'unique maison de la famille, les héritiers de la première catégorie peuvent demander au tribunal parce que leur réserve successorale a été entamée.
Mmh.
À ce moment-là, ils peuvent revenir sur la question et demander...
Donc, comme une mutation. Hein.
Oui, et ils peuvent revenir sur la question et saisir le juge et demander que cela soit résolu et que les biens soient retournés dans le patrimoine de la succession.
On a vraiment débordé. On termine juste par cette dernière question. C'est aussi un témoignage. Sam Degba, depuis Issiro, nous dit « Nous avons justement ce même problème parce que notre jeune frère neveu n'a pas voulu partager le loyer avec nos autres enfants que le feu papa n'avait pas laissé dans le testament. »
En principe, lorsque le bien ou la maison est mise en location, tous les héritiers doivent profiter du fruit.
Mmh.
L'un ne peut pas dire que non, parce que cela n'est pas prévu dans les testaments.
Mais comment partager le loyer
Non, mais il se partage en part égale entre héritiers. Parmi les héritiers de la première catégorie, personne ne peut avoir plus que les autres. Ils ont tous les mêmes droits. On ne dit pas que les plus grands doivent avoir plus que les plus jeunes, non.
Mmh, mais ça pose quand même problème, hein, peut-être parce que la justice n'intervient pas directement. Alors, Blonde Capalou, depuis Colésie, nous dit quelles sont les conditions exigées par l'État pour obtenir un autre titre d'une maison en cession. Et que dit la loi
loi pour les unions libres entre concubins et dont les enfants n'ont jamais été affiliés. Rapidement.
En principe, pour obtenir les titres, on l'a dit, il faut notarier les documents que l'on a et puis aller devant les conservateurs d'études immobilières pour demander la mutation. Mmh. En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, la loi est claire. La loi dit que les enfants ont droit à la succession au même titre que les enfants nés dans le mariage dès lors qu'ils sont reconnus du vivant de leur père. Mais si les enfants n'ont pas été reconnus, si les autres les contestent et si on applique la loi de manière stricte, ils sont exclus de la succession.
Voilà, on aura certainement à revenir sur cette question prochainement parce qu'on peut tout dire, on peut pas tout dire aujourd'hui, notre Dominique.
Effectivement.
Nous vous remercions vraiment d'avoir été des nôtres et nous remercions aussi tous ceux qui ont eu l'occasion de poser leurs questions. Affaire à suivre, hein, maître Dominique.
Merci Nicole, merci Gilles.